Chapitre 40e. Comment le bon Roland surprit étrangement le fier don Bernard de Carpio, et comment la tête de l'un des deux devint semblable à une figue sèche. La nuit sépara les combattants. 150 000 sarrasins jonchaient la vallée de leurs cadavres. Parmi les chrétiens, 800 restaient, seuls débris des 20 000 que Roland avait eus sous ses ordres. Turpin et Olivier étaient blessés. Roland perdait son sang par 10 blessures. Mais aucun sarrasin ne pouvait se vanter de l'avoir affronté impunément. Son bras, fatigué de frapper, pendait inerte à son côté. Devant lui, des monceaux de sarrasins gisaient fendus, coupés en deux par Durandal, ou percés par sa lance, ou foulés sous les pieds sanglants de brides d'or. Malheureusement, les chrétiens étaient sans vivres et sans eau pour étancher leur soif. Le lendemain devait achever leur défaite. Roland seul pouvait s'échapper, car des milliers de sarrasins n'auraient osé l'arrêter. Mais il ne voulut pas abandonner ses compagnons. Vers minuit, le bon archevêque Turpin, se sentant très affaibli, se leva avec l'aide de Roland et se hâta de donner l'absolution à tous les survivants. Puis il se coucha pour ne plus se relever. « Sonne encore !» dit Olivier. « Sonne toujours ! Qui sait si Charlemagne arrivera à temps ?» Roland obéit, et les sons lugubres de l'Olifant portèrent de nouveau l'inquiétude dans l'âme du vieil empereur. Mais les mensonges du traître Ganelon l'abusèrent encore, et il se recoucha, bien résolu à chercher Roland dès le lendemain s'il ne rejoignait l'armée. Le jour reparut, et le combat recommença. Vers midi, Roland restait seul. Tous ses compagnons étaient morts, mais les sarrasins n'osaient approcher de lui, et lui-même, trop fatigué pour les poursuivre et sentant la mort venir, il s'assit, la tête appuyée contre un rocher et rêvant à Corisande. Il n'était ni effrayé ni attristé de sa fin prochaine, car il avait assez longtemps combattu les ennemis de notre sainte religion pour trouver place dans le paradis du Dieu des armées. Mais il tremblait pour sa belle princesse, qui allait vivre seule, loin de sa famille, dans un pays inconnu. Il avait souhaité de quitter ce monde avec elle, la main dans la main, et il se demande avec tristesse qui la protégerait désormais. Un grand bruit interrompit ses réflexions. Don Bernard de Carpio, averti par le malheur de Gaffeiros, s'était gardé d'attaquer Roland. Mais quand il le vit s'asseoir à l'écart et attendre tranquillement la mort, il crut avoir trouvé l'occasion de triompher sans danger de cet invincible ennemi et de s'emparer de ses armes. Roland devina son dessein, mais trop fatigué pour se lever et combattre, il attendit en silence et sans mouvement apparent l'attaque du Matamoro. Celui-ci descendit de cheval et piqua légèrement le comte d'Angers de sa lance pour savoir s'il était vivant. Roland, indigné de cet affront, demeura immobile et les yeux à demi fermés, mais il suivait du regard tous les mouvements de son ennemi. Durandal était déposé près de lui sur la roche. Il tenait à la main son olifant, dont le mugissement aurait couvert celui de 20 000 taureaux réunis. Don Bernard de Carpio se baissa et saisit Durandal par la poignée. Au même instant, Roland, plus prompt que l'éclair, le frappa de son olifant à la tempe. Le coup fut si rude que la tête du malheureux Hidalgo fut aplatie comme une figue sèche. Les os craquèrent horriblement et la cervelle jaillit sur le rocher. Telle fut la fin de l'invincible Matamoro. Cependant, Roland se sentait mourir. Il voulut sauver Durandal de la honte d'appartenir à un sarrasin et la briser. Réunissant toutes ses forces, il frappa le rocher du tranchant de l'épée, mais Durandal fendit la montagne, fit une brèche énorme et ne se brisa pas. Roland la jeta loin de lui, par-dessus le sommet de la montagne, et la bonne épée tomba dans les eaux profondes d'un lac qui se cache à 3 lieues de Roncevaux et qu'aucun voyageur n'a pu découvrir. C'est là qu'elle dort depuis bien des siècles, et elle y dormira jusqu'à ce qu'un héros pareil à Roland vienne l'y chercher. C'est l'arrêt de Merlin et de la destinée. Le soleil allait se coucher. Roland souffla une dernière fois dans son olifant, qui rendit un son si puissant et si prolongé qu'on l'entendit dans toutes les Pyrénées. L'olifant se brisa sous le souffle du héros qui se coucha sur le rocher. Il regarda le soleil qui dorait les plus hauts sommets de la montagne, appela Corisande et rendit le dernier soupir. Cependant, Charlemagne, averti par Imbaud, accourait à marche forcée. Dès qu'il connut la trahison de Ganelon, il le fit écarteler tout vif et reprit sa course vers Roncevaux avec toute son armée. Il avait retrouvé toute l'ardeur de sa jeunesse pour sauver ou venger Roland. Quand il arriva, tout était fini. Roland venait de mourir. Corisande, qui avait suivi Charlemagne en dépit de tous les efforts de ce dernier, reconnut son amant et embrassa tendrement ses tristes restes. Ses yeux étaient sans larmes et sa bouche sans parole. Le vieil empereur voulut la relever et la consoler. Elle était morte. Heureux amants, ils moururent ensemble et leur amour ne finit qu'avec leur vie. Tout le monde connaît la terrible vengeance que Charlemagne tira du roi Marsile, la prise de Saragosse, le massacre de 400 000 Sarrasins et l'incendie de 300 villes fortifiées. On sait aussi que Doralice trouva bientôt un consolateur, qu'elle épousa le duc des îles Fortunées, qu'elle en eut plusieurs fils, et qu'elle fut heureuse comme elle méritait de l'être, car c'était une bonne femme, douce à elle-même et à son prochain. Un seul homme avait vu dans tous ces détails la terrible bataille de Roncevaux et la mort de Roland. C'est le pêcheur de truites qui en fit le récit à Rimbaud et à l'empereur Charlemagne. Quelques années plus tard, Rimbaud renonça tout à fait à la belle Églantine et devint archevêque d'Arles. Ali resta philosophe et pêcheur de truites, recherché de tous parce qu'il n'avait envie de rien et ne faisait concurrence à personne. Ainsi s'achève la mort de Roland, d'Alfred Assolant.